Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, peut-être plusieurs d'entre vous, surtout les plus jeunes, se demandent qu'est-ce que vient faire encore en 2004 cette fête de Sainte-Jeanne d'Arc au calendrier liturgique, alors que partout, dans les écoles, dans les journaux, à la télévision, on ne parle que d'Europe, de mondialisme et d'intégration. Jeanne d'Arc, au contraire, a voulu et a combattu pour que la France reste la France, avec sa religion, sa culture, ses cathédrales, sa langue, son roi. Oui, son roi. Mon père, on vous voit venir. Vous allez nous parler contre la démocratie, contre la République, contre les droits de l'homme. Oui, parfaitement. C'est exact. Ceux qui pensent cela ne se trompent pas. Seulement voilà. Je vais vous exposer, non une opinion personnelle, mais tout simplement la doctrine de l'Église catholique romaine. Et cela étayé par des exemples historiques, et tout particulièrement celui de notre seconde sainte patronne de France, sainte Jeanne d'Arc, dont on fête la solennité aujourd'hui, et dont l'exemple est unique dans l'histoire du monde. En Allemagne, un des plus grands écrivains allemands, Schiller, a fait tout un livre, enfin au moins un théâtre, une pièce sur Die Jungfrau von Orléans. Nous allons donc voir cette question délicate et combien importante entre toutes. Faut-il aimer notre patrie? Nous allons voir ça en trois points, pour que ce soit clair, que vous le reteniez. Premier point, Dieu, qui gère le monde, veut-il que les hommes se regroupent en nation ou patrie? Premier point. Deuxième, ces nations ont-elles chacune une mission? Troisième point, le rôle de Jeanne d'Arc dans la mission de la France. Dieu veut-il les patries dans l'organisation du monde? Il n'y a qu'à ouvrir la Bible. Nous voyons que Dieu, qu'on ne peut pas nier l'action de la Providence sur le monde, qu'il a créé avec une infinie sagesse. N'oublions pas que les œuvres de Dieu sont parfaites. L'exemple le plus évident est celui du peuple hébreu. On peut constater que Dieu s'est choisi un peuple pour préparer sa venue. De fait, le peuple hébreu, par la volonté du Créateur du ciel et de la terre, a chassé les habitants de Palestine pour occuper ce pays et le mettre à l'abri des païens, de leurs faux dieux. Et souvent, les victoires contre ces païens ont été miraculeusement voulu de Dieu pour que ce peuple se maintienne dans une certaine sainteté en vue du Messie. Ensuite, après l'échec de la construction de la tour de Babel, la diversité des nations devait contribuer à réveiller l'émulation des peuples, à favoriser le progrès et la civilisation. Et heureux effet important, à empêcher l'extension d'une déchéance religieuse et morale. De fait, les nationalités devaient être des barrières protégeant les peuples contre l'idolâtrie et l'immoralité de leurs voisins. La diversité des langues devait aussi contribuer à la gloire de Dieu, de même que l'admirable variété dans les règnes végétales et animales. ainsi que dans toute la création. Et pourquoi le chrétien doit-il aimer la nation dont il tire son origine et à laquelle il appartient? Parce qu'il doit observer le quatrième commandement de Dieu. La nation forme une grande famille, une grande parenté. De même que l'on aime ses parents plus que ses amis, ainsi il faut aimer sa nation plus qu'une nation étrangère. Et comme un enfant aime mieux sa mère que la mère d'un autre, sans mépriser pour cela et haïr celle-ci. Mais nous devons aimer notre nation sans mépriser ni haïr les autres. L'amour de la nation est donc fondé sur la loi naturelle, c'est-à-dire la volonté du Créateur. Dieu nous a mis naturellement au cœur un plus grand amour pour nos parents que pour les autres hommes. Et de même, il nous a donné aussi un plus grand attachement pour le peuple dont nous descendons et dont nous faisons partie. Du reste, vous le savez bien, nous sommes déjà naturellement portés à nous joindre à ceux qui parlent la même langue que nous. L'amour de la nation est donc un précepte de la loi naturelle. Or, les préceptes de la loi naturelle ne sont pas abolis par le christianisme. Au contraire. Aussi, Jésus-Christ déclare-t-il qu'il n'est pas venu pour détruire la loi. L'amour de la religion et l'amour de la nation, ayant Dieu pour auteur, sont deux sœurs jumelles. Et Dieu ne pouvant se contredire, l'amour de la religion n'est jamais en contradiction réelle avec celui de la nation. Jésus-Christ, les prophètes, les apôtres, la Sainte Vierge et beaucoup de saints étaient très enthousiasmés par leur nation. Le divin Sauveur n'a-t-il pas travaillé presque uniquement dans la terre promise, s'efforçant d'être utile avant tout à sa nation? N'a-t-il pas déclaré lui-même qu'il n'est envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël? Cela fait partie du quatrième commandement de Dieu. Et donc, nous devons témoigner notre amour pour notre nation en l'estimant et en contribuant par tous les moyens licites à son progrès et à sa défense. Voyons le second point. Les nations ont-elles chacune une mission? Nier cela serait nier l'action de la Providence sur le monde qu'il a créé avec une infinie sagesse. N'oublions pas que les œuvres de Dieu sont parfaites. Nous l'avons vu pour le peuple hébreu, c'est évident. Avec cet exemple, écoutons ce que dit le célèbre cardinal Pie, commentant les paroles de saint Paul. Dieu, dit-il, a fait naître d'un seul, Adam et Ève, tout le genre humain, et il lui a donné le globe entier pour demeure. Il a défini le temps de l'apparition de chaque peuple, et lui a marqué le lieu de son établissement. L'ordonnateur suprême a fixé l'heure de chacune des nations, assigné leurs frontières, déterminé leur rôle. Oui, déterminer leur rôle, régler leur durée et leur part d'action dans l'œuvre générale, et complétant la preuve de raison par la révélation qui nous apprend que Dieu a donné les nations en héritage à son Fils, leur Rédempteur. Il s'écrit faisant sienne les paroles d'un illustre écrivain, « Les nations sont voulues de Dieu et concourent et conçues dans votre grâce. » Ô Jésus-Christ, à chacune d'elles, vous avez donné une vocation. À chacune d'elles, vous avez donné une vocation. En chacune d'elles vit une idée profonde qui vient de vous, qui est la trame de ses destins. Après donc avoir constaté en termes précis et magnifiques l'action incessante de Dieu sur les nations qu'il a créées et rachetées par son Fils, le cardinal Pie conclut que les nations, en tant que nations, Les peuples, en tant que peuples, sont tenus, au même titre que les particuliers, de s'assimiler et de professer les principes de la vérité chrétienne. D'où notre troisième point. Le rôle de Sainte Jeanne d'Arc dans la mission de la France. Là, il est bon de résumer un peu d'histoire. Nous rappelons que la France était devenue la première nation catholique en Europe et dans le monde, après l'effondrement et le partage de l'Empire romain. Ceci avec le baptême de Clovis en 496. Le grand mérite de Clovis fut de réduire l'hérésie arienne qui ravageait toute une partie de ce qui est devenu le royaume des Francs. Ceci après des victoires spectaculaires, entre autres dans notre sud-ouest, où Clovis a chassé les Visigoths qui étaient ariens au-delà des Pyrénées. Quelques siècles plus tard, tout le nord de la France on peut dire jusqu'à la Loire, était envahi par les Anglais qui, un siècle après, allaient devenir anglicans. Dieu voulait réserver la France, préserver la France de cette hérésie. Les Anglais avaient pour allié le duc de Bourgogne, qui occupait l'est et le nord de la France, partie de la Belgique actuelle. Le dauphin, c'est-à-dire le futur roi de France, s'était retiré à Bourges. Alors que le roi d'Angleterre, Henri VI, occupait aussi, dans le sud-ouest, toute la région entre Bordeaux et Bayonne. Il s'était proclamé roi de France et d'Angleterre. Un peu partout, c'était le pillage, le vagabondage, faute d'autorité et de pratiques religieuses. L'un va avec l'autre. Toute la situation se renversa en cette fin de guerre de 100 ans, par la prise d'Orléans, le dimanche 8 mai 1429. Hier, dans le diocèse d'Orléans, c'est fête de première classe. Le mieux est de vous lire cette page d'histoire de France. Le samedi 7 mai 1429, Jeanne d'Arc entendit la messe. Reçut en moult grande dévotion le précieux corps de Jésus-Christ, puis monta à cheval. Son hôte voulut l'arrêter pour lui faire manger une alose. En nom Dieu, gardez-la pour ce soir à souper. Nous repasserons le pont et ramènerons un godon qui en mangera sa part. La porte de Bourgogne était fermée. Les Bourguignons étaient alliés des Anglais, donc on ne pouvait pas rentrer passer la Loire. Le sire de Gaucourt, chargé de faire exécuter les ordres des chefs militaires, fit connaître la consigne à Jeanne, qui arrivait au galop. Nul ne doit aujourd'hui sortir d'Orléans. Vous êtes un vilain homme, que vous le vouliez ou non, et les gens de guerre vaudront et gagneront comme ils ont gagné. Au nom de Dieu, je ferai ce que j'ai dit. Qui m'aimera me suivra. Jeanne fit défendre Gaucourt contre les hommes d'armes et les bourgeois qui suivaient Jeanne d'Arc, donc les Français, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils massacrent ce de Gaucourt. La porte fut ouverte. Les Français passèrent la Loire et se portèrent contre les tourelles de forteresses anglaises. « Ayez bon cœur, leur cria Jeanne, et bon espoir, vous aurez la bataille bien bref. » L'attaque commença vers 10 heures. Jeanne fut blessée au cou par une flèche, comme elle l'avait prédit. On l'emporte. On mit une compresse d'huile d'olive sur la blessure. Les Anglais, voyant Jeanne hors de combat, avaient repris cœur et repoussé les Français. Les chefs de ceux-ci voulurent remettre l'assaut au lendemain. Jeanne revint au feu et dit à Dunois, « Ne vous retirez pas, au nom de Dieu, vous entrerez bien bref dedans, n'ayez doute. La pucelle alla prier à l'écart, l'espace d'un demi-quart d'heure, puis se levant. « Ah, mon étendard !» cria-t-elle. Les Français accoururent à elle. Elle s'approcha du fossé et dit à Guy de Cailly, « Donnez-vous de garde, quand la queue de mon étendard touchera le mur du boulevard. »« Jeanne, la queue y touche. Dedans, enfants, au nom de Dieu, ils sont l'autre. » L'assaut fut donné. Les Français franchirent fossé et muraille, comme par miracle de Dieu. Il met le feu aux tourelles. La pucelle rentre à Orléans par le pont. Le dimanche 8, les Anglais semblaient se préparer au combat. Ceux d'Orléans voulaient sortir de la ville. N'attaquez pas, dit Jeanne. Si les Anglais attaquent les premiers, défendez-vous hardiment. N'ayez point peur et vous les aurez. Elle fit avancer les prêtres et célébrer la messe. C'était dimanche. Puis elle leur dit, « Regardez si les Anglais tournent vers vous, le visage ou le dos. » Ils tournaient le dos et s'en allaient. « Eh bien, laissez-les partir, et nous allons remercier Dieu, car c'est aujourd'hui dimanche. » Et la pucelle, sous vos champs, l'étendard en main, au milieu de ces gens, rentra en ville, Orléans était délivré. Il y eut une grande exaltation chez tout le peuple, et merveilleuse louange, aux vaillants défenseurs, et surtout à Jeanne la Pucelle. Et elle dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qu'il faut remercier. Et l'on fit procession pour regracier notre Seigneur. Orléans délivré, Jeanne dit à Charles VII, gentil dauphin, mettez-vous en besogne, car je ne durerai guère une année, pas beaucoup plus. Et elle est morte. 2 ans après, le 30 mai, brûlé à Rouen en 1431. Tout est dit. Vous savez les victoires qui sont succédées. Et surtout, elle a arrêté la poursuite des Anglais et des Bourguignons en voulant d'abord sacrer le roi. Donc un gouvernement, un roi, une autorité. Une grande leçon aujourd'hui. Jeanne d'Arc avait 17 ans. Elle n'avait pas fait Saint-Cyr. Mais elle avait cette foi en la volonté de Dieu. Voilà, grande leçon, mes bien chers frères, aujourd'hui. Dieu premier servi. Toutes ces élections, toutes ces histoires, ces affiches, ces discours, c'est nul par rapport à la volonté de Dieu sur notre pays, qui doit remplir sa mission. Et chacun de nous doit prier en ce sens et vivre en ce sens. Toujours Dieu premier servi. Vous l'avez bien vu. Ah, mes bien chers frères, voilà ce qu'il faut retirer. C'est le message que nous donne Jeanne d'Arc aujourd'hui, au milieu de ce mondialisme qu'on essaie de mettre en place, qui est le nivellement. Toutes les religions se valent. C'est blasphématoire. Et ça nous amène les conséquences que vous savez, que vous voyez sous vos yeux. Alors, bien, chers frères, prions Jeanne d'Arc de nous redonner à notre patrie sa foi et sa doctrine sociale. Demandons-le par la Sainte Vierge en somme de Marie, et de toute façon, Dieu aura le dernier mot. Prions dans ce sens avec espérance, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut se mettre à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Qui veut perdre sa vie à cause de moi, la retrouvera. Que sera l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Ou bien qui donnera l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, très providentiellement, en cette année 2013, la fête de Sainte-Jeanne d'Arc officielle est célébrée en France, alors que nous avons un gouvernement qui s'oppose à tout ce qu'a fait Sainte-Jeanne d'Arc, seconde patronne de France. En effet, Sainte-Jeanne d'Arc a mis au pouvoir un roi. C'est donc l'extraordinaire occasion de méditer en ce dimanche l'exemple unique dans l'histoire de notre seconde patronne de France. Car, en effet, il se trouve historiquement une différence fondamentale entre les deux situations politiques de ces deux prises de pouvoir. Celle il y a 2 ans, 3 ans, dans le premier cas, et Jeanne d'Arc qui met au pouvoir un roi, Charles VII, et le faisant couronner dans la cathédrale de Reims, par l'évêque de Reims. Dans le cas présent, le président qui est sorti est allé au Panthéon recevoir une investiture laïque. C'est donc quelqu'un qui n'a rien à voir avec le pouvoir divin, du moins officiellement. Quoique la divine providence qui gouverne le monde permet ce mal, cette laïcité d'investiture, certainement pour un plus grand bien. Donc il y a de très importantes réflexions, méditations à faire en ce jour. La première question que certains peuvent se poser, doivent se poser. Comment se fait-il que la Sainte Église catholique ait canonisé Sainte Jeanne d'Arc 5 siècles après sa mort, alors que la sentence de réhabilitation avait été prononcée dès 1456. Les vues de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous voyons les choses humainement. Nous sommes comme des taupes, alors que Dieu, par sa divine providence, survole éternellement l'espace et le temps. Mais avant de répondre à la question proprement dite, il y a une considération théologique à faire, que plusieurs d'entre vous ignorent, probablement. Nous autres, les hommes, nous serons ou condamnés au jugement, ou au contraire récompensés après notre mort, mais pas les nations. Les nations sont châtiées et récompensées sur la terre. La France ne sera pas jugée dans l'au-delà. Voici une citation du cardinal Pi, ce grand cardinal dont le pape lui-même s'inspirait. Le pape savait sa théologie, mais les écrits du cardinal Pi étaient excellents pour montrer par la situation française la situation de toutes les nations. Je cite le cardinal Pi. Les nations sont voulues de Dieu. Les nations sont voulues de Dieu. Et il fait vivre les nations et les gouverne. Il leur envoie la richesse ou la pauvreté, les victoires ou les défaites, les bénédictions ou les châtiments, suivant qu'elles sont fidèles ou rebelles à sa loi. À chacune d'elles, il parle en, comme une prière, vous avez donné une vocation. À chacune d'elles vit une idée profonde qui vient de vous et qui est la trame de ses destinées. Soyons clairs, l'exemple le plus récent, historiquement, et à la fois douloureux, c'est la défaite de 1940. Je l'ai vécu, comme tous ceux d'entre vous qui sont dans ma génération. J'avais 16 ans. En 45 jours, la France connaît la plus grande défaite de son histoire. Après un gouvernement socialiste, gauchiste, Léon Blum. Les églises se vidaient lentement. Mais à commencer avec cette défaite de l'histoire de France, où nous avons eu 1 200 000 prisonniers en Allemagne, en Autriche. Dieu a voulu que ce soit le maréchal Pétain qui mette fin à cette défaite. Maréchal Pétain, qui a été voté à grande majorité à la Chambre. À cette époque-là, Maréchal Pétain qui a demandé cet armistice, Maréchal Pétain qui a, péché mortel pour la gauche, interdit la maçonnerie en France. Je me souviens, j'étais à Bergerac, la loge maçonnique a été, on a cassé les vitres et enlevé tous les documents, malheureusement. Les maçons avaient évacué les documents les plus compromettants, ils sont partis en Suisse. Ce qui compromettait la maçonnerie par son action souterraine. Ça a été le péché mortel du maréchal Pétain. Il avait supprimé la République, fait un État français. C'est ce qui a été le grand motif de sa condamnation en 1945. Il avait 89 ans. Le plus vieux prisonnier du monde. Jeanne d'Arc, 5 ans avant, a mis fin à la guerre de 100 ans. On ne se battait pas tous les jours, mais progressivement les Anglais envahissaient toute la douce France. Par ses défaites successives, l'armée anglaise met le siège à Orléans, occupe Paris. Tout cela parce que le roi de France, quelques décennies avant, Philippe le Bel, non seulement n'écoutait plus le pape, mais voulait le faire arrêter et le déposer. Rien que cela. Dieu a châtié la France. Pour bien montrer que son action est miraculeuse, celle qui va rétablir la situation, la Providence se sert, non pas d'un général de Gaulle, mais d'une jeune fille. 17 ans, Jeanne la Pucelle, illettrée, mais qui sait son catéchisme. Elle commande aux généraux, elle veut que tout le monde se confesse, communie, avant les batailles. Elle chasse les ribaudes des camps militaires, comme déjà Saint-Louis, 2 siècles avant, qui disait, les vraies batailles se gagnent avec des hommes en état de grâce. Je n'arrive au deuxième point, parce que je résume, bien sûr. Je ne vous fais pas honte, mes bien chers frères, en vous rappelant le fait quasiment unique dans l'histoire de l'Église, on peut dire du monde, du parallèle entre notre Seigneur Jésus-Christ et Sainte Jeanne d'Arc. Elle naît le jour de l'Épiphanie, notre Seigneur Noël. Jeanne d'Arc, l'Épiphanie, la grande fête après Noël. Même enfance cachée dans un petit village. Nazareth, notre Seigneur, Don Rémy, pour Jeanne. À 12 ans, notre Seigneur instruit les prêtres, leur fait le catéchisme, le grand théologien de l'époque. Jeanne d'Arc, à Poitiers, instruit les théologiens les plus gradés. Ils reconnaissent qu'elle a une mission et que le roi lui peut faire confiance. En effet, avoir 17 ans, savoir sa théologie, se dit venir de Dieu, ils ont permis au roi de lui confier l'armée française. C'est un fait historique, unique. Notre Seigneur, 30 ans de vie cachée. Jeanne d'Arc, 17 ans de vie de petite villageoise, mais pieuse, serviable, toujours joyeuse, travailleuse. Notre Seigneur, 3 ans de vie publique. Jeanne d'Arc, 2 ans et demi de vie publique. Voyez le parallèle. Notre Seigneur est honoré d'abord, au jour des rameaux. Béni soit celui qui vient du Seigneur. Jeanne d'Arc à Orléans, l'apothéose. Tout le monde voulait toucher même son cheval. Notre Seigneur, finalement, est trahi par Judas. La pucelle, également trahi, vendu, comme Judas l'a fait. Notre Seigneur est livré aux Romains, Jeanne d'Arc aux Anglais. L'évêque Cochon qui condamne Jeanne d'Arc, c'est Caïphe qui condamne notre Seigneur Jésus-Christ. Le duc Belfort a été vraiment celui pour Jeanne d'Arc, ce qu'a été Pilate pour notre Seigneur. Jeanne pardonne à ses ennemis au moment de leur rendre l'âme, comme notre Seigneur sur la croix. Père, Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jeanne d'Arc, alors qu'elle est brûlée, les Anglais disent, nous avons brûlé une sainte. Nous avons brûlé une sainte. Enfin, Jeanne est attachée à la croix, est attachée au bois. Notre Seigneur, à la croix. Le bois, on voit encore à Rouen cette colonne-là, on dit que c'est l'authentique. Tout cela, mes bien chers frères, est unique dans l'histoire de l'Église. Donc c'est une très grande leçon que Dieu veut donner à toutes les nations du monde entier et à toutes les époques. Des voyageurs, des hommes d'affaires m'ont dit qu'au Japon, il a vu une exposition sur Jeanne d'Arc, au Japon. Ensuite, mes bien chers frères, je vais maintenant répondre à la question des 5 siècles d'attente avant la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc en 1922 par le pape Pie XI et la créant seconde patronne de France. Avec le roi Philippe le Bel, la France s'était révoltée contre le pape, le Saint-Siège. Elle fut châtiée. Quelle est la grande mission de Sainte Jeanne d'Arc, et qui est fondamentale avant tout, de remettre la France dans les mains du bon Dieu. Parce que quand une nation n'est plus vouée à Dieu, c'est le diable qui s'en occupe. La gloire de Dieu n'est plus là. Et les âmes se perdent en enfer, en grand nombre, en plus grand nombre. Voici donc les paroles historiques de la sainte au roi Charles VII. Parce qu'elle veut remettre la France dans les mains de Dieu. Elle veut prouver au roi qu'il n'est, lui le roi, que le lieutenant de Jésus-Christ. Et elle lui fait cette demande extraordinaire, je cite, « Gentil roi, il me plairait, avant de descendre dans le cercueil, d'avoir votre palais et votre royaume. Ô Jeanne, répond Charles VII, mon palais et mon royaume sont à toi. Et Jeanne, inspirée, dit, notaire, écrivez, le 21 juin à 4h du soir, de l'an de Jésus-Christ 1429, le roi Charles VII donne son royaume à Jeanne. Écrivez encore, Jeanne donne à son tour la France à Jésus-Christ. Nos seigneurs, dit-elle d'une voix forte, à présent, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, Seigneur éternel, je la donne au roi Charles. Nous appartenons donc à Dieu d'une façon certaine, engagement historique. Cet acte authentique est d'une importance capitale dans l'histoire de France. À la suite de cet acte, Orléans fut délivré. Tout de suite, Dieu y met son doigt. Orléans, c'est miraculeux. Les Anglais étaient fortifiés. J'en ai fait prier. Les Anglais se sont sauvés, presque sans se battre. Peut-on après cela parler de laïcité de l'État? N'est-ce pas un parjure, un blasphème pour tous ceux qui enseignent, mettent en pratique socialement, politiquement, la laïcité de l'État, qui n'honore plus Dieu, qui est maître des individus, des familles, des nations. Il est écarté, le Créateur. D'où la guerre de Vendée, où les catholiques ont dit « on ne peut pas supporter ça ». Plus de roi, plus d'ordre, plus de collaboration avec l'Église. Mais bien, chers frères, c'est le troisième point. Comment en sommes-nous arrivés là, dans notre douce France? Il ne s'agit pas de faire du sentimentalisme, de faire travailler notre intelligence. Les grandes chutes, les grands scandales ne se font jamais en un acte et un tableau. Le démon prend son temps. Il agit sournoisement, subrepticement, par paliers. Après Jeanne d'Arc, il y eut les trois R. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est des écrivains, des historiens sérieux. Les trois R. Quels sont ces trois R? La Renaissance, Erasme. L'homme est un chef-d'œuvre de la création. Il est libre. Dieu lui a donné cette liberté, ce libre arbitre. Il est le chef-d'œuvre de la création. Ceci est juste. Mais à force de faire ressortir l'homme, il faut aussi parler de son péché originel et ne pas écarter Dieu. Voilà, la Renaissance, le paganisme antique qui est honoré, enseigné, ça a amené la réforme protestante, comme l'a dit très justement des bénédictins allemands. Erasme a pondu les œufs, mais c'est Luther qui les a couvés avec son libre examen. L'homme a la liberté, donc il lit la Bible comme il veut. Cette fausse notion de la liberté, Luther. Une parenthèse utile pour les hommes d'affaires ici, c'est à partir de Luther que l'argent est devenu une véritable puissance mondiale. Avant Luther, le prêt à usure, c'était une excommunication. Prêt à usure. Tu prêtes, mais tu gagnes pas avec ça. Même les marxistes disent bien que l'origine du capitalisme, c'est Luther. L'argent fait des petits. Et banque, nous y sommes en plein. Ici à Montauban, tous les hommes d'affaires étaient devenus protestants. Pas le brave Jean, les hommes d'affaires protestants. Et en toute la France à peu près. Arrive la révolution, le troisième R. Renaissance, réforme, révolution. Bien, cher frère, je pense que je ne vous apprends rien. On renverse toute la société. Révolution, révolvere, on met tout, l'homme devient Dieu. Et Dieu est mis de côté. La révolution dite française, mais en réalité, judéo-maçonnique. On ne peut pas le cacher aujourd'hui. Tout ce ravage pendant 3 siècles qui se sont suivis. Et après 2 siècles de cette expérience malheureuse, de cet entêtement diabolique, de cette laïcité des nations modernes, avec ces 5 révolutions, 2 guerres mondiales, voici, mes bien chers frères, une citation du pape Benoît XV, pour montrer bien que Dieu doit avoir sa place première dans le monde, dans le gouvernement. Benoît XV déclare hautement, devant tous les cardinaux, à Rome, en 1917, 3 ans de guerre mondiale, la première, qui a fait 17 millions de morts. 17 millions de morts. Je cite le pape. C'est l'athéisme légal, érigé en principe de civilisation, qui a précipité le monde dans un déluge de sang. Je précise, comme on n'a pas écouté le Saint-Siège, les papes, et la Société des Nations, maçonnique, Deuxième Guerre mondiale, 48 millions de morts. 48 millions de morts. J'en souffre particulièrement, comme Alsacien, 37 000 Alsaciens lorrains ne sont pas rentrés de Russie. Deuxième Guerre mondiale. Alors le pape dit, c'est l'athéisme légal qui évidemment les droits de l'homme qui ont évincé les droits de Dieu. Or, ce n'est que l'abolition de cet athéisme légal dont parle le pape, qui au contraire, la proclamation officielle des droits de Jésus-Christ sur la société, qui peut écarter les flots d'un nouveau déluge encore plus sanglant et plus universel. Je viens de vous dire, Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, chers frères, impossible d'être indifférent dans cette situation. Mon père, que faire alors, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes? Vous n'êtes pas aveugle? Premièrement, à la sortie de cette messe, il y a là le livre sur Jeanne d'Arc. Je ne l'ai pas fait seul, ce livre. C'est Jeanne d'Arc et Message de Saint Jeanne d'Arc pour l'occasion de ses 6 ans d'année, 600e anniversaire de sa naissance en 2012. Dans ce livre, j'ai été par certains critiqué gravement, même injurié. Il y a une revue, pas conciliaire, qui m'insulte, me met plus bas que terre, même publie mes péchés. Ils en ont oublié d'ailleurs. Enfin. Mais, qu'est-ce que je viens faire une annonce de Jeanne d'Arc qui est politiquement incorrecte, sans démocratie moderne? Inutile de vous dire que la réponse est en train de se faire, avec des encouragements du directeur même de la revue. Alors bien, chers frères, je vous demande de vous prendre ce numéro et de relire le chapitre 7. Qu'est-ce qu'il y a d'incorrect politiquement? Je dis qu'il faut arrêter, avec les documents pontificaux, c'est clair, ce système de démocratie moderne, où Dieu est écarté. Or, il n'y a jamais eu en France de république catholique qui honore Dieu. Puisque le principe moderne républicain français, c'est que c'est laïque, absolument. En dehors de ça, c'est politiquement incorrect. Ça a été dit officiellement. Ah oui, bien, cher frère, mais mon père, il y a les élections, comment on va faire? Mais bien, cher frère, aux élections dernières, Moi, j'ai dit que je ne veux pas commettre de péché. Les candidats au deuxième tour sont pour l'avortement, les subventions aux gays, les mariages d'hommes. J'ai dit, je ne veux pas commettre un péché en votant pour eux. Monseigneur Lefebvre a dit, tâchez d'avoir des maires et des sénateurs, des députés catholiques. Ils ne sont plus. La plupart, sur les 28 ministres, ils ont tous dit, ils sont athées, agnostiques. Quelques-uns ont dit, ceux qui ont voulu parler, d'autres n'ont pas voulu parler, qui croient en rien. Les 28 ministres, alors, tous ceux qui ont voté, moi j'ai la conscience tranquille, je n'ai pas voté, et j'ai dit de ne pas voter. Je ne veux pas faire un péché en votant pour ces gens-là. Maintenant, ils en voient les fruits. La dernière nouvelle que j'ai, c'est catastrophique. Même les socialistes en Lorraine veulent presque battre le président. Voilà, on en cueille les fruits. Ceux qui regardent la télévision et qui ont bien vu que la dernière semaine, c'était celui-là, c'est Hollande d'ailleurs. Ne dites pas non. Eh bien, chers frères, alors il ne s'agit pas de fêter Jeanne d'Arc et de continuer ce système diabolique. Il faut prier pour que la France change le gouvernement, qu'on devienne une monarchie avec un roi qui est uni avec l'Église, qui est le lieutenant de Dieu. Mon père, vous rêvez, c'est impossible. C'est faux. Si nous prions tous, la France a une mission. Les papes le rappellent, la France a une mission. Donc nous avons une mission pour rétablir et donner l'exemple au monde d'une union entre l'Église et le gouvernement, qui favorise le salut des âmes et la gloire de Dieu. Donc, mes chers frères, prenez ce numéro-là et relisez-le, et formez-vous. Et alors, mon père, vous oubliez, ne parlez pas des retraites. Alors, bon, je me rattrape. Mes chers frères, les vacances arrivent, rien de tel que ces retraites de Saint-Ignace pour ouvrir les yeux, devenir courageux, avoir sa foi approfondie et courageuse et missionnaire, et mettre les enfants dans de bonnes écoles catholiques. J'en ai vu des milliers, grâce aux retraites, mettre leurs enfants en bonne mode d'éducation, et non pas dans l'éducation nationale, laïque. Mes chers frères, c'est le mois de mai, mois de Sainte Vierge, prions la Sainte Vierge pour qu'elle nous aide à avoir le courage d'être vraiment des vrais catholiques, des catholiques français qui travaillent à ce que notre pays redevienne la vraie fille aînée de l'Église. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.